Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je suis dans les studios de la radio RVM et je reçois l'association France Alzheimer Oise. Alors, messieurs, dames, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs.
Alors, je m'appelle Jean-Pierre Gruyer, bonjour à toutes et à tous. Je suis bénévole depuis 7-8 ans, je fais partie du conseil d'administration de France Alzheimer Oise. Je suis également le référent pour le secteur de Crépy-en-Valois. Et également, je dispense les formations pour les aidants au niveau du département.
Bonjour, Didier Gamin, donc je suis président de France Alzheimer Oise, secrétaire général au niveau de l'Union nationale également. Et merci aux auditeurs de nous écouter dans cette émission et merci à RVM de nous recevoir.
Bonjour à tous, alors moi c'est Vanessa, je suis bénévole depuis environ 3 mois à l'association et j'ai plus récemment rejoint le conseil d'administration France Alzheimer Oise.
Merci de votre présentation et on a une demoiselle avec nous, alors elle ne veut pas se parler mais elle se prénomme comment ?
Isis.
Très bien, et donc tu y accompagnes papy, c'est ça ?
Oui.
Qui a créé la section Oise, c'est vous ou ça a été...
Ah non, elle a été créée depuis plus de 30 ans,
France
Alzheimer Oise, puisqu'on avait fêté les 30 ans il y a 2 ans, il me semble, oui, voilà, donc elle a 32 ans d'historique. Vous savez, quand on est bénévole chez France Alzheimer, c'est parce qu'on a vécu justement cette maladie-là dans notre famille. Moi, c'est ma mère, ma belle-mère également, donc je suis aidant depuis de nombreuses années.
Écoutez, moi j'ai connu l'association puisque j'étais touché par la maladie. C'était mon épouse qui a eu 54 ans, qu'on appelle un malade jeune, parce qu'il y a le problème aussi qu'elle était encore en activité. Et on m'a indiqué qu'il y avait une association dans l'Oise, donc je me suis rapproché et j'ai fait la formation des aidants qui m'a aidé énormément, comme aidant-aidé. Mais c'est vraiment le cas qui vous apprend quels sont les symptômes de la maladie, comment réagir, comment se comporter. Parce que ce n'est pas évident, c'est une maladie qui est très très déroutante, parce que c'est une maladie évolutive et on ne sait pas, il n'y a pas de retour en arrière.
Et pour moi, j'ai fait face au diagnostic de mon papa il y a environ 3 ans. Aujourd'hui, je suis engagée dans l'association pour justement pallier à ce que j'aurais aimé avoir, moi, pour l'accompagner. C'est une maladie qui... parfois, pour l'entourage familial ou même autre, est souvent incompréhensible. Donc j'aimerais m'investir aujourd'hui à pouvoir en parler un petit peu plus et faire que le quotidien des malades et des aidants soit plus facile au quotidien.
On va peut-être expliquer ce que c'est cette maladie, peut-être, avant de rentrer un peu plus dans le détail de vos associations.
Oui, je pense qu'il est utile de revenir sur l'historique, les symptômes et puis également les chiffres. Alors Alzheimer, pourquoi Alzheimer? Oui, c'est cette maladie, eh bien, c'est le professeur de médecine allemand qui en 1906, donc vous voyez on remonte au début du siècle dernier, ce monsieur a décrit pour la première fois les symptômes de la maladie en 1906. Depuis, la recherche avance certes, mais il a fallu attendre 1996 pour avoir le premier médicament qui ralentit l'évolution de la maladie, mais qui ne la stoppe pas. Et malheureusement, 2024, nous sommes toujours au même chiffre, toujours 0 traitement curatif sur cette maladie. Alors, les chiffres clés qu'on pourrait donner à nos auditeurs, c'est d'abord le nombre de malades diagnostiqués en France aujourd'hui, qui est de 1 200 000 personnes touchées par la maladie Alzheimer. Diagnostiquées, ça veut dire qu'on peut facilement multiplier ce chiffre par 3, puisque un malade sur 3 n'est pas diagnostiqué en France. 50% des Français ont dans leur entourage une personne diagnostiquée. Et on va parler des malades jeunes. Jean-Pierre a commencé tout à l'heure. Il y a 55 000 malades jeunes en France. Un malade jeune, en effet, c'est une personne qui a moins de 65 ans. Il est malheureusement courant aujourd'hui de connaître des personnes malades à 40 ans, 50 ans. Alors, ce n'est pas une maladie génétique, donc n'ayez pas peur. Moins de 1% des cas de maladie Alzheimer sont d'ordre génétique. C'est pas parce que vous avez votre parent ou grand-parent qui est atteint de cette maladie que vous allez l'avoir. Non, moins de 1% des cas. C'est, en chiffre toujours, c'est la deuxième maladie la plus redoutée des Français après le cancer. Vous doutez pourquoi ? C'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie sournoise, on la sent pas venir. Voilà, donc deuxième maladie la plus redoutée des Français. Alors je reviens sur le chiffre de 1,2 million. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisqu'on peut vivre avec Alzheimer pendant 10 ans, 20 ans, donc c'est normal qu'on ait un nombre important de malades Alzheimer. Mais voyons un petit peu plus l'évolution annuelle. L'évolution annuelle, c'est 225 000 nouveaux malades chaque année en France. Et 225 000 malades, vous voyez, ça représente un nouveau malade toutes les 3 minutes en France. Ça, c'est alarmant. C'est alarmant parce que si on tient compte de cette évolution, ça veut dire que l'estimation en 2050, ce sera 2 200 000 malades. Et 2 200 000 malades, on voit tout de suite que les infrastructures en France ne suffiront pas. Il n'y aura pas assez d'EHPAD, il n'y aura pas assez d'aide à domicile. C'est alarmant. C'est pour cela que nous alertons au niveau national les pouvoirs publics pour prendre en compte cette évolution et voir comment on pourrait préparer malheureusement l'estimation de 2050 actuelle. Et enfin, dernier chiffre, si on compare toujours ces 1,2 million avec les deux autres maladies neurodégénératives en France, c'est Parkinson, c'est environ 250 000 malades, et sclérose en plaques, 120 000. Donc vous voyez que malheureusement, Alzheimer est nettement au-dessus.
Et on a une idée des symptômes, on arrive à mieux les comprendre, à mieux travailler dessus, parce que je sais que là vous dites quand même depuis 1906, donc ça fait plus d'un siècle que cette maladie a été détectée. Est-ce qu'il y a une avancée pour prévenir les gens? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, qui ont peut-être ces problèmes de maladie. Hein.
Oui, on a bien sûr les signes hein, qui permettent de repérer la maladie. Je vais vous en donner 10 de signes, c'est les principaux. Le premier, c'est la perte de mémoire des événements récents. Tous les Alzheimer ont cette perte de mémoire. C'est le signe commun à tous. Après, tous les symptômes sont différents d'un malade à un autre. Il n'y a pas deux malades identiques Alzheimer. Ils sont tous différents. Mais la perte de mémoire, elle, c'est sur les événements récents. Tous les malades l'ont. Alors, événement récent, c'est pas ce qui s'est passé hier, c'est ce qui s'est passé il y a 10 secondes. Par exemple, un malade va vous demander l'heure, vous lui dites, il est midi, il va vous redemander, 10 secondes après, il va vous demander quelle heure est-il. Et il va toujours répéter la même question. Pourquoi ? Et c'est parce qu'il ne capte plus ce que vous lui dites. Il n'enregistre pas la réponse que vous lui avez donnée. Et donc, il va vous redemander la même question. Donc, vous voyez d'entrée de jeu que c'est une maladie usante pour les aidants, parce que l'aidant est bien sûr épuisé avec tous les signes des symptômes que le malade a. Alors, autre signe pour repérer la maladie, c'est difficulté à accomplir des tâches quotidiennes, ne plus savoir faire des choses habituelles qu'il avait l'habitude, par exemple, mettre le couvert. Il aura du mal à mettre l'assiette, le couvert. Il aura du mal également à desservir la table. Et au lieu de mettre, c'est courant, hein, au lieu de le mettre dans le lave-vaisselle, ben, il mettra dans le lave-linge, voilà, malheureusement. Après, il y aura une perte de motivation. Troisième symptôme important, perte de motivation, c'est ne plus avoir envie de faire. Un malade d'Alzheimer va rester assis dans son fauteuil, mais n'aura plus envie de faire les activités de loisirs qu'il avait avant. Problème de langage également, comme symptôme, c'est-à-dire chercher ses mots, chercher ses phrases, très courant dans cette pathologie. Autre symptôme, désorientation de repères dans le temps. Ne plus savoir si on est le matin, le soir, en été, en hiver. Voilà, donc être perdu sur l'année, vous demandez à un malade d'Alzheimer quelle année sommes-nous, il aura du mal à vous dire qu'on est en 2024. Autre symptôme, baisse des capacités d'attention. Autre symptôme, perte d'objet. Alors ça peut amener des situations très difficiles à vivre. Perte d'objet quand on vit en couple à domicile. Quand on perd quelque chose, on va dire à son conjoint, tu m'as volé. Tu m'as volé mes clés, tu m'as volé mon porte-monnaie. Et ça amène des situations très difficiles à vivre avec les dents, parce que ça peut amener des situations difficiles, genre énervement contre son conjoint, même frappe de son conjoint. On le vit hein, chez certaines familles. Autre symptôme, c'est altération du jugement et du raisonnement, modification du comportement également, et modification de l'humeur. Voilà les 10 signes principaux pour repérer la maladie chez une personne.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est la maladie d'Alzheimer, mais aussi les maladies apparentées. Donc il y a la maladie à corps de Lévy, frontotemporale, il y en a plusieurs. Ce qui est aussi dans cette maladie, c'est que toute la famille est touchée. Il y a l'aidé, donc le malade, et l'aidant. Et c'est très très difficile à vivre parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors vous avez beaucoup aussi de déni dans cette maladie. Et là aussi, je trouve que l'association offre la formation des aidants, qui est une formation extraordinaire. C'est parce qu'on décrit tous les symptômes, tout ce qu'on peut faire, comment se comporter. Parce que c'est très très difficile quand la personne vous demande 10 fois la même chose, elle ne s'en souvient pas. Mais c'est justement la mémoire la plus récente qui n'enregistre plus dans l'hippocampe. Et on nous dit, oui, mais attends, il s'est chanté la valse bleue, des chansons anciennes, il s'en souvient. Forcément, c'est la mémoire la plus ancienne qui reste le plus longtemps.
Moi, je pense que pour les aidants, ça doit être très difficile parce que vous n'avez plus la même personne en face de vous, quoi.
Alors, il faut absolument que les aidants ne restent pas seuls. Il ne faut pas se couper de la vie sociale. C'est très important pour les malades et pour les aidants. Et puis d'autre part, un chiffre que les gens ne connaissent pas, mais qui commence à beaucoup circuler, c'est qu'un tiers des aidants décèdent avant le malade, d'épuisement, parce qu'ils sont concentrés sur le malade, et ils s'oublient. Ils ne vont plus voir le médecin, ils oublient les choses, parce que c'est vraiment, c'est 24 heures sur 24 que vous avez le malade. Oui. Et vous ne savez pas, bon là ça va bien, mais dans une heure, comment il va réagir?
Justement, Vanessa, vous qui êtes récente dans l'association, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez su détecter des symptômes, c'est ça? Comment ça a commencé?
Alors, pour l'histoire de mon papa, justement, j'ai rejoint l'association pour pallier, comme je vous disais, à l'accompagnement des familles et des malades, de sorte que j'aurais aimé avoir cet accompagnement, moi. Ça s'est passé déjà, comme le disait Jean-Pierre, il parlait de déni, par un déni de la part de mon papa qui s'isolait. Il comprenait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, mais on préfère se dire que ce n'est pas ça. Le mot Alzheimer fait peur, que ce soit côté malade ou côté aidant. Ensuite, il y a eu les signes avant-coureurs que Didier nous a énoncés tout à l'heure. Et puis, il y a eu la phase diagnostique. Et puis après cette phase diagnostique, il y a encore une période de déni. Alors, tous les malades sont différents, toutes les histoires sont différentes. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. En tout cas, pour mon papa, ça s'est passé comme ça. Après, il y a l'acceptation et autour de ça, apprendre. Apprendre comment ça se passe, éviter les conflits. Didier le disait aussi tout à l'heure, hein, je recite une fois, il peut avoir des accès de violence. Mais si je peux vous faire une petite parenthèse encore plus précise... Je me rappelle d'un cas de figure où mon papa m'appelait au travail pour avoir de l'aide. Donc effectivement, il se rappelait de mon numéro de téléphone, il se rappelait de moi. Parce qu'il pensait avoir été agressé à son propre domicile alors que c'était tout simplement sa femme qu'il ne reconnaissait pas. Et là, si vous voulez, se crée vraiment un monde en parallèle parce que mon papa est en souffrance, il croit être accompagné d'une étrangère et ma maman l'est également parce qu'elle ne comprend pas. Cet accès de violence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment en parler et faire comprendre, si tant est qu'on ait vraiment la méthode ajustée à chaque malade, les différentes étapes de la maladie pour aider à les accompagner au mieux, que ce soit la famille, l'entourage ou le malade.
Alors, qui fait le diagnostic? Alors, c'est le médecin généraliste ou non? Il faut aller voir un peu plus haut, des spécialistes.
Pour faire le diagnostic, la première étape, c'est de faire un test de consultation mémoire. Ça se passe à l'hôpital. ça dure une heure et demie. Voilà, c'est un échange oral, hein, entre soit avec une neuropsychologue, soit avec le gériatre. Et là, avec cette consultation d'une heure et demie, on voit s'il peut y avoir Alzheimer ou non. Et après, la deuxième étape, ce sera un examen clinique. Il faudra faire un IRM au niveau de l'hippocampe. Et là, on sait très bien.
Le diagnostic tombera assez vite alors. Voilà, oui. Et justement, ça touche plus les femmes, plus les hommes. On sait, on arrive déjà à déterminer si ça touche plus une certaine couche de la population ou pas.
Oui, alors Alzheimer, c'est Alzheimer, la maladie. Alzheimer, c'est 60% femmes et 40% d'hommes. Tandis que les maladies apparentées, dont Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, principalement la maladie à corps de Lévy, qui est une maladie mixte, celle-ci est très difficile à vivre, c'est une maladie mixte avec des symptômes parkinsoniens et Alzheimer. Là, c'est l'inverse, c'est 60% d'hommes et 40% de femmes.
Et donc, ça ne touche pas la population très jeune, quoi. C'est avec la prise d'âge qu'on...
Il y a des malades jeunes.
Oui, vous avez évoqué
tout à l'heure. Oui. Vous savez que la plus jeune personne en France à Alzheimer, elle a 26 ans. Donc oui, 26 ans. Donc bon, c'est rare, hein. Il ne faut pas que nos éditeurs pensent que à 30 ans on a Alzheimer. Non, c'est rare, mais ça rentre dans la population que j'ai annoncée tout à l'heure, c'est-à-dire 55 000 malades de moins de 65 ans.
Voilà. Et donc vous avez dit que pour l'instant, donc il y a des traitements qui ralentissent, mais qui ne soignent pas définitivement, quoi. Donc c'est encore un gros travail à faire au niveau de la recherche. Alors voilà.
Les quatre médicaments qui sont sur le marché français permettent de ralentir l'évolution de la maladie. À savoir malheureusement que ces médicaments ne sont plus remboursés, et c'est une charge financière énorme pour les familles. C'est des charges mensuelles entre 100 et 150 euros par mois. Ils ne sont plus remboursés suite à notre ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, en 2018. Elle a décrété que, comme ces médicaments n'étaient pas curatifs, eh bien on ne les remboursait pas.
Alors ce qui est bien dommage, parce que d'abord ils sont toujours sur le marché, donc s'ils sont sur le marché, c'est qu'ils peuvent être utiles. Alors, c'est vrai que ça ne réussit pas à tous les malades, ça concerne surtout les malades au début de la maladie. Mais ça peut ralentir la maladie, et ça c'est très important. C'est vrai qu'ils ont pris le prétexte qu'il y avait des effets secondaires, mais ouvrez une boîte de médicaments, regardez la liste, le nombre d'effets secondaires.
La meilleure solution pour vous, donc, c'est que la personne reste chez elle, vive chez elle, ou qu'elle rentre dans un centre spécialisé. Comment on fait ?
Tant qu'elle est à domicile et que son conjoint peut soutenir, c'est mieux, bien entendu, de la laisser à domicile, parce qu'elle a toutes ses habitudes, voilà, donc c'est beaucoup mieux. Faire une entrée en EHPAD, bien sûr, c'est très dur pour la personne malade, parce qu'elle va perdre tous ses repères. Et dans cette maladie, c'est très important.
Ce qui est important, surtout lorsqu'on décide de ne plus garder le malade à domicile, c'est lorsque le malade se met en danger, mais également en danger les aidants. Là, il n'y a pas de solution. Il faut absolument les retirer du domicile et les mettre en EHPAD.
Oui, parce que les dents, comme vous dites, c'est 24 heures sur 24, donc ça veut dire qu'on ne peut plus avoir une vie professionnelle. Exactement. On est obligé de rester, c'est très compliqué à gérer, quoi. Oui.
Je vous cite un exemple que je connais bien. Il y avait un malade qui avait une maladie apparentée, et tout se passait bien, il était à domicile avec son épouse, et puis un jour la maladie s'est dégradée subitement, donc il y a eu des menaces, il y avait le couteau, puis il ne reconnaissait plus son épouse. Et ça a failli mal tourner. Et donc là, il a fallu absolument placer le malade en EHPAD, en soins, parce qu'il y avait des risques pour les aidants. Hein.
Mais alors, cette maladie, on la suit avec son généraliste? Comment ça se passe? Est-ce qu'il est capable de gérer cette situation? Non, il faut absolument avoir de...
Oui. Les médecins généralistes ne sont pas formés pour cette maladie Alzheimer. Donc il faut vraiment qu'il y ait soit une neuropsychologue qui suit... le malade ou alors un gériatre.
Le but surtout, c'est d'essayer de maintenir le plus longtemps possible la mémoire qui reste. Donc par exemple, l'orthophonie, c'est important parce qu'il va faire travailler sur pour que la mémoire qui reste encore là reste le plus longtemps. Et on parlait des malades jeunes. Les malades jeunes, bon, c'est une, comme je disais, une population un peu différente parce qu'il y a des problèmes avec l'employeur souvent. Le but, on avait monté dans l'Oise un atelier des malades jeunes où là, il n'y avait que les malades et on faisait travailler tous les souvenirs qui pouvaient rester. On partait de la petite enfance, on remontait à l'adolescence, les premiers amours et ainsi de suite. Et c'est très intéressant parce que là, ils étaient entre eux. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très très riche, y compris pour les gens qui les aidaient, mais également pour les malades.
Ouais, ce qu'on peut également ajouter... La différence entre un malade jeune et un malade âgé, c'est qu'un malade jeune se rend compte, il sait ce qu'il a, il sait qu'il a Alzheimer, et quand on discute avec des malades jeunes, j'ai assez l'habitude pour ça, ils ont une force de vivre incroyable. Ils veulent se dépêcher de faire plein de choses parce qu'ils se disent « Ah ben, peut-être que demain je pourrai plus, quoi. » Donc c'est vraiment... vraiment terrible. Moi, je me sens tout petit à côté d'un malade jeune quand il vous sort ça et il vous dit la force de vivre qu'ils ont. C'est terrible. Et un malade âgé, oui, alors lui, il est dans son monde. C'est ce que je dis souvent, laissez-le dans son monde. Un malade, il faut pas le contrarier, il faut pas l'énerver. S'il pense qu'on est le matin alors qu'on est le soir, ben laissez-le. C'est le matin, point final, c'est pas grave. Il est dans son monde et c'est à vous, aidant, de rentrer dans le monde du malade. Voilà. Et à ce moment-là, tout se passe bien.
Et c'est vrai qu'en tant qu'aidant, il faut prévoir, essayer d'avancer ce qui risque de se passer. Et il faut aussi parfois penser à la place du malade. Et là, c'est usant, quoi. Parce que d'une heure ou le lendemain, la situation peut être dégradée. Puis il y a des moments où... il y a une petite flamme, ça reprend, donc les dents reprend espoir, et puis bon, ça se redégrade à nouveau. Mais ce sont des maladies qui sont vraiment qui affectent toute la famille et les aidants tout proches. Donc,
oui, comme vous avez dit, un tiers des aidants qui décèdent, c'est énorme. Quoi.
C'est énorme. Oui.
Ouais,
ouais. Ouais, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Didier. Rentrer dans le monde des malades, c'est vraiment quelque chose auquel je suis confrontée énormément avec mon papa. Il y a un langage, en fait, qui est propre à nous tous. C'est le respect, la tendresse. Et ça, ce sont des émotions que ressentent encore les malades. Lorsque je visite mon papa, peu importe s'il me reconnaît ou non, finalement, j'y vais pour lui, pour son accompagnement, et lui prendre la main, le regarder dans les yeux et le rassurer, peu importe qui je suis à son égard. Ça fonctionne tout le temps. Et si effectivement il pense que c'est l'après-midi alors que c'est le matin, ben, je ne vais pas essayer de lui faire entendre raison. Et puis on va essayer que ça se passe paisiblement. En règle générale, ça fonctionne assez bien avec eux.
Alors c'est vrai aussi qu'on se dit oui, mais il ne s'exprime plus, il ne parle plus. Mais je crois que c'est un être humain. Il y a encore beaucoup. On a cinq sens dans la vie. Il y a le toucher, il y a l'expression du regard, il y a le visage, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça demande, ce que tu disais Vanessa, c'est vrai qu'on est dans deux mondes qui différents, et c'est vrai qu'il faut essayer de... le malade, on ne va pas le changer hein, de toute façon, et puis même s'il peut être violent, il peut être grossier, parce qu'il y a des comportements où les malades sont grossiers, le malade n'est pas comme ça, c'est la maladie. Donc ça, c'est aussi difficile à s'approprier au niveau des aidants. Parce qu'on dit, bah oui, je te l'ai déjà dit, ça fait 40 fois que je te le dis, mais oui, mais... c'est parce qu'il est malade, il ne s'en souvient pas, donc ça ne sert à rien de lui en vouloir. Et c'est vrai qu'il faut, ce que je disais que les dents, il faut qu'ils s'adaptent en permanence, c'est vrai que lorsque 10 fois, il nous pose la même question, moi le premier, c'est très très difficile. Et dans ces cas-là, on conseille surtout de sortir, aller dans une autre pièce, ou alors de changer de sujet, et ça va mieux après. Mais ça ne sert à rien de s'énerver, hein, de toute façon...
Et on peut vivre, vous avez dit, plus de 20 ans avec la maladie d'Alzheimer, c'est
oui,
ça?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Surtout quand on est malade jeune. Imaginez, si la maladie tombe à 40 ans, voilà. Non, Alzheimer n'est pas une fin en soi. On n'en meurt pas. On meurt des conséquences, on meurt d'autres pathologies, mais Alzheimer, on vit avec. Autrement, mais on vit avec.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute votre choix musical. Vous pouvez nous le présenter?
Oui, vous allez écouter une chanson écrite et chantée par une chanteuse qui réside dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle Charlotte. Elle a fait une chanson pour sa grand-mère, qui était atteinte d'Alzheimer, qui était dans un EHPAD, et elle s'est échappée de l'EHPAD. Elle est partie, ce qu'on appelle l'errance. L'errance, c'est quand on a quelque chose en tête, on sait où on veut aller, sauf qu'on ne peut plus y aller. Et malheureusement, elle est sortie de cet établissement. On l'a retrouvée plusieurs mois plus tard. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez courant aussi. Souvent, aux informations, dans les médias, monsieur est parti d'un EHPAD, etc. Et pour le retrouver, c'est pas évident du tout. Alors, j'informe les familles également là-dessus. C'est quand le malade part pour faire une course ou autre, vous avez la possibilité maintenant d'une solution qui s'appelle SOS Mobile, qui est diffusée par le conseil départemental de l'Oise, où ça permet, vous permettant d'avoir une puce GPS qui vous permet de vous retrouver en cas d'errance.
On peut localiser plus facilement, voilà.
On localise.
Merci.
Voilà. Donc la chanson s'appelle « L'absence ».
Enfin. C'est Frédéric, je suis dans les studios de RVM en compagnie de Vanessa, membre récente de l'association France Alzheimer Oise, de son président, donc Monsieur Didier Gamin, et de Jean-Pierre Grouillet, donc, qui est administrateur et qu'on a déjà reçu à la radio puisqu'il travaille beaucoup sur le secteur de Crépy-en-Valois. Voilà, je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Hein.
Non, c'est ça.
Donc cette chanson très émouvante, hein. C'est une artiste qui est connue, comment elle
oui,
va...
Oui, elle est connue dans les Hauts-de-France, puisqu'elle fait partie du département 62, Pas-de-Calais, et c'est la marraine de l'association France Alzheimer Pas-de-Calais.
Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà, vous avez souvent l'occasion de la rencontrer, alors peut-être, non de,
moi, personnellement, non. On l'a vu en concert une fois. Nous sommes montés à Calais pour une après-midi organisée par France Alzheimer Pas-de-Calais. Voilà, donc... Mais pourquoi pas la faire venir un jour dans l'Oise ?
Oui.
On verra.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de votre association. On commence par peut-être France Alzheimer, puis après on rentre dans France Alzheimer Oise ?
Oui. Alors France Alzheimer, c'est un réseau. C'est un réseau de 101 associations départementales. Nous sommes présents dans tous les départements de France, métropole et autres, même à Mayotte. À Mayotte, il y a une association France Alzheimer qui se déplace en bus de commune en commune. Avec malheureusement la particularité, si on parle de Mayotte 30 secondes, la particularité de ce département, c'est qu'il n'y a pas d'EHPAD.
Ah oui, c'est le département le plus pauvre de France,
donc,
je crois. Hein, c'est
imaginez, ça, hein. Enfin, imaginez un malade d'Alzheimer, là, vous êtes obligé de le garder à domicile jusqu'au bout.
Oui.
Alors c'est un réseau en effet avec une union nationale à Paris qui fédère les différentes associations. Alors il y a quatre objectifs chez France Alzheimer. Le premier, c'est accompagner et soutenir les familles de malades. C'est le rôle de chaque association départementale. Le deuxième objectif, c'est sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics. Parce qu'en effet, il faut parler des chiffres. Alors, dans cet objectif, on a commencé quand même à travailler avec les parlementaires, puisqu'il a été créé, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, un groupe d'études d'Alzheimer à l'Assemblée nationale. Il y a 24 députés dans ce groupe de travail, et je me réjouis, il y a 3 députés de l'Oise, dont le vôtre d'ailleurs sur la circonscription de Crépy. Pierre Vatin fait partie en effet de ce groupe de travail, et également Maxime Minot qui est sur Clermont et Albert Dassault qui est sur Beauvais. Donc le but c'est de travailler sur des sujets et le principal en ce moment travail c'est sur les aidants qui sont en activité, comment aider un aidant en activité à pouvoir s'occuper de son malade. Troisième objectif de France Alzheimer, c'est contribuer au progrès de la recherche. On est premier association publique à aider la recherche mondiale Alzheimer, puisqu'on subventionne jusqu'à 1 200 000 euros chaque année des projets scientifiques sur la recherche. Et quatrième objectif, nous sommes institut de formation. Et donc, on forme les aides à domicile et les aides-soignants avec des formations dédiées spécialement à Alzheimer. Voilà les quatre objectifs. Donc, on va reprendre celui de l'Oise. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre et va vous parler des activités qu'il y a sur la région de Crépy-en-Valois.
D'abord, ce qui est très très important, c'est que pratiquement tout ce qui est proposé aux aidants et aux aidés, il y a toujours un bénévole de l'association qui a été touché par la maladie, donc soit les parents, les grands-parents, l'épouse, et ainsi de suite. Et nous sommes toujours accompagnés par un psychologue qui est payé par France Alzheimer au niveau national. Et ça fait un duo qui est interactif. Et ça permet beaucoup d'échanges avec les aidants ou les aidés. Alors sur Crépy-en-Valois, nous avons depuis janvier 2023 un groupe de parole qui se réunit donc le deuxième mardi de chaque mois de 17h30 à 19h30 à la maison de la Hante, là où se trouve en face de l'hôpital de Saint-Lazare. Nous avons mis en place aussi de la sophrologie. Là aussi, c'est toujours le deuxième mardi de chaque mois, donc de 15h à 17h. Et là, ça se tient au 60 bis, rue de Soissons, à la Maison des Associations à Crépy-en-Valois. Le troisième mercredi de chaque mois, nous avons le Café Mémoire, de 15h à 17h, au 60 bis rue de Soissons, Maison des Associations à Crépy-en-Valois. Alors, le Café Mémoire, c'est un lieu d'échange où il n'y a pas de jugement. Ce qui est dit, ça reste entre nous, parce que les gens se confient sur leur maladie. Et ça fait depuis 5 ans et demi que j'anime ce Café Mémoire avec Evelyne, qui est notre psychologue. Et c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus de monde. Et nous avons pratiquement un renouvellement de un tiers à chaque Café Mémoire, de gens qui viennent, qui sont nouveaux, qui veulent avoir des précisions, des informations sur la maladie d'Alzheimer. Alors le Café Mémoire est ouvert aux aidants, aux aidés, c'est entièrement gratuit. On peut venir à 15h30, repartir à 16h30, c'est la totale liberté. Nous avons également des gens aussi qui se posent des problèmes. J'ai une perte de mémoire, est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer? Donc ils viennent chercher des informations. Nous avons aussi des étudiantes pour être aide-soignantes, auxiliaires de vie, qui viennent voir aussi comment ça se passe. Et donc je trouve que c'est très très riche. Il y a aussi des liens qui se créent. Après, des petits groupes, ils se téléphonent lorsqu'ils ont un problème. Moi, je sais que personnellement, je donne mon numéro de téléphone, mon portable. Donc, s'il y a des problèmes, les gens m'appellent pour avoir des adresses, par exemple, ou parfois m'appellent mais pour me demander des renseignements médicaux, mais je ne suis pas médecin. Donc, je ne peux pas, mais je les renvoie à la bonne adresse.
Oui.
Parce que ce qui est compliqué, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Vanessa ou Didier, ce qui est compliqué, c'est de savoir à qui s'adresser. Je sais qu'il y a des expériences dans certains départements où ils essaient de mettre un guichet unique où les gens arrivent à tel endroit et on leur donne tous les renseignements, parce que c'est compliqué, notamment sur les malades jeunes, comme je disais, il y a les problèmes avec l'employeur, et puis il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc c'est pas évident. Je fais aussi, mais ça c'est plus au niveau du secteur de Compiègne, Crépy en Valois, la formation des aidants, donc qui est une formation qui dure 14 heures, il y a en principe 7 modules, à peu près 2 heures, où là, c'est que les aidants. Et là, j'en ai parlé au début de l'émission, on parle des symptômes, en précisant bien que chaque malade est différent, ça faut insister, comment se comporter, les aides qu'ils peuvent avoir, lorsque la personne se met en danger ou met en danger ses proches, pour l'entrée en EHPAD, parce qu'elle aussi, c'est très difficile. Je crois qu'en tant qu'aidant, on a souvent tendance à culpabiliser. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfait, nous sommes des êtres humains. Et c'est vrai que des fois, face aux réactions du malade, c'est très, très, très compliqué. Même si on avait la formation, des fois, c'est pas évident. Et puis, sur Crépy-en-Valois, depuis quelques mois, avec le tennis de table de Crépy-en-Valois et l'hôpital Saint-Lazare, on essaie, les aidants comme les aidés, de venir faire du tennis de table. Donc c'est une activité qui a lieu le lundi de 11h à 12h à Crépy-en-Valois, à la salle Bernard Kinsdracht, juste à côté.
Oui.
Et j'ai assisté à des séances et c'est vrai, c'est très 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 surprenant de voir les réactions que peuvent avoir les malades. C'est riche d'enseignements.
Jean-Pierre, vous pouvez nous laisser un contact, un lien? Comment vous contacter? Comment vous rencontrer?
Alors, écoutez, je vais vous donner mon numéro de portable. Si je ne réponds pas dans l'immédiat, parce que je suis en retraite, mais je suis pas mal occupé, c'est le 06 81 56 73 66.
Donc, Vanessa, votre expérience est récente avec France Alzheimer Oise. Comment vous avez pris contact et pourquoi vous avez eu envie de vous investir dans cette association?
Mais tout simplement, comme je disais tout à l'heure, pour pallier à l'accompagnement que j'aurais voulu avoir face au diagnostic de mon papa. C'est souvent une histoire personnelle qui nous amène malheureusement à l'association. Mais d'autre part, je pense que il y a aussi un parcours professionnel. J'ai travaillé dans une agence petit-fils d'aide à domicile, qui accompagne le plus souvent les personnes âgées à leur domicile, ce qui aide les malades d'Alzheimer à garder le plus longtemps possible leurs repères. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a eu un cas personnel, le diagnostic de mon papa, et également professionnel, puisque je voyais la difficulté des auxiliaires de vie à accompagner au mieux les malades d'Alzheimer à leur domicile. Et j'ai rencontré Didier, qui est venu sur place à l'agence former les auxiliaires de vie, ou du moins leur donner quelques clés pour accompagner au mieux les personnes. Voilà, j'ai croisé sa route et puis, depuis, je ne les lâche plus.
Voilà, envie de s'investir pour vous, pour les autres. Voilà. C'est ça. Votre rôle, c'est quoi alors exactement alors?
Écoutez, il reste encore à définir, pour être honnête. Dans l'immédiat, je dirais que c'est d'apprendre, d'être empathique, d'écouter. Et puis, chaque bénévole de l'association, même s'il a eu un parcours personnel qui lui a enseigné des choses sur la vie, a aussi une formation obligatoire, une voire plusieurs. Aujourd'hui, je suis en plein dedans. Voilà, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'aider les autres.
Oui,
tout simplement.
C'est important, oui. Et comme on a compris, 1 200 000 personnes, donc ça va encore grimper ces chiffres, je suppose. On n'est pas dans une pente ascendante, je veux dire, c'est
oui.
ça. Hein.
Oui. 225 000 nouveaux malades par an.
Oui, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont peut-être des symptômes qui ne se rendent pas compte.
Ah oui, tout à fait, oui,
bien sûr.
Oui.
Mais je voulais revenir sur les activités de bien-être. Là, Jean-Pierre a parlé de sophrologie. Oui. On développe et on va encore en faire plus cette année. Je pense que les ateliers de bien-être sont très importants à la fois pour les aidants et les malades. Alors, pour les aidants, on fait de la relaxation, on fait de la sophrologie. Et puis, pour les malades, on a lancé sur Compiègne, mais pourquoi pas le développer un jour sur Crépy, la musicothérapie. Qui fait énormément de bien également pour les malades, où on repasse des chansons anciennes, où on leur donne des petits instruments, tambour, tambourin, etc. Parfois, ils dansent également. Donc, 2 bonnes heures de musicothérapie par mois pour les malades. On lance à partir de ce mois, du mois de mai, l'équithérapie. Donc, on ne monte pas sur le cheval, on ne monte pas, bien sûr, mais on va caresser le cheval, on va le brosser, on va lui parler, etc. Donc ça, on le lance à partir du mois de mai sur Chaman, à côté de Senlis. Et puis, sur Compiègne, on va également développer ce qu'on appelle la marche adaptée, avec un club de randonnée pédestre, où on va faire des petites marches pour les malades.
Ça représente combien d'antennes dans l'Oise, Didier, votre association?
Alors, on va parler plutôt de secteur.
De secteur,
on d'accord. On est sur l'ensemble de l'Oise. Jean-Pierre a parlé du Café Mémoire de Crépy. Nous avons 12 cafés mémoire répartis sur le département de l'Oise. Hein, Noyon, Compiègne, après Senlis, etc. 12 lieux. On a aujourd'hui une famille qui veut chercher des informations sur Alzheimer. Il peut rencontrer un bénévole dans un rayon de 20 km autour de chez lui. Donc ce qui est pour moi bien, c'est ce que je voulais quand je suis arrivé à l'association. Je voulais supprimer les zones d'ombre de manière à ce que les familles aient toujours un contact à quelques kilomètres de chez eux. Et ça maintenant, ça existe et j'en suis content. Une activité qu'on n'a pas parlé, qu'on lance également au niveau du département, comme au niveau national, c'est les séjours vacances. Alors, les séjours vacances, c'est pour le couple aidant-aidé ou aidé avec un aidant-enfant, par exemple. Donc, c'est aller sur un lieu balnéaire et puis l'aider, le malade est pris en charge du matin jusqu'au soir par une équipe médicalisée, une équipe de bénévoles. Et l'aidant, ça lui permet d'aller visiter, d'aller se ressourcer la journée. Et il retrouve son proche tous les soirs jusqu'au lendemain matin. Donc ça fonctionne très très bien également. Et on a une bénévole dans notre département qui est bénévole nationale sur les séjours vacances.
Donc il y a pas mal de choses que vous mettez en place. Donc ça bouge bien dans l'Oise. Alors.
Oui, bien sûr. Et on fait plus. On fait... sur 2023, on a fait 220 actions sur le département. Donc vous voyez, c'est presque par jour ouvré, il y a au minimum une action.
comment ça se passe pour rentrer dans l'association? Oui, alors souvent, il y a une adhésion comment...
Oui, bien sûr, les contacts sont souvent pris dans, par exemple, dans les forums des associations, forums des seniors, ou de la bouche à oreille, hein, parce que maintenant l'association est connue. Vous parliez de Facebook, on a une page Facebook également, bien sûr, hein, France Alzheimer Oise. Et les contacts sont faciles. Il y a un numéro d'appel sur notre siège qui se trouve à Beauvais, où on a deux salariés, donc du lundi jusqu'au vendredi, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour prendre votre communication et vous donner tous les renseignements. Et puis en plus, après, l'adhésion, oui, elle est de 34 euros par an, qui vous permet de faire toutes les activités ensuite qu'on vous a dit, que ce soit des activités de bien-être ou les cafés mémoire, les groupes de parole, formation des aidants également.
Alors comment vous soutenir? Quels sont vos besoins?
Les besoins, c'est nous faire rencontrer les familles, parce que les familles n'osent pas venir nous voir. Mmh. Vous savez, on a l'habitude de faire des forums, forums des associations ou autres, où on voit les personnes contourner le stand, parce qu'on ne sait pas, ça fait peur.
Je confirme totalement ce que disait Didier. C'est vrai que j'ai fait avec toi des forums des seniors. Et c'est vrai que lorsque les gens voient Alzheimer, ils se détournent. C'est pas contagieux, heureusement d'ailleurs. Ils se détournent parce que c'est vrai aussi, on a le terme médical, c'est démence. Donc démence, ouais. La folie, ça fait peur. Ouais. Alors on a les gens qui ont un proche qui est atteint par la maladie ou des auxiliaires de vie ou des jeunes qui se dirigent dans l'aide à la personne, qui viennent voir, qui viennent prendre des renseignements. Mais ça, c'est caractéristique, hein, c'est surprenant, on voit les gens qui font un détour. Bon.
Oui, ça, c'est un de notre rôle également, c'est de démystifier justement ce mot Alzheimer. Et ça rentre par des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Et la première porte d'entrée pour sensibiliser le grand public, ce sont des ciné-débats que l'on fait dans différents cinémas du département. On l'a fait déjà à Crépy-en-Valois. Un ciné-débat, c'est quoi? C'est diffuser un film qui traite du sujet Alzheimer, et puis ensuite un débat avec nous, bénévoles de l'association, mais également avec des professionnels de santé qui viennent ce soir-là pour pouvoir répondre plus sur des sujets, sur des questions médical. Alors, il y a quatre films qu'il faut absolument voir quand on veut rentrer un petit peu plus dans ce monde d'Alzheimer. On en a diffusé à Crépy, comme je vous le disais. Le premier, c'est The Father. The Father, c'est un film où la caméra a su se mettre à l'intérieur du corps du malade, avec un grand acteur, Anthony Hopkins. Il a eu deux Oscars, ce film-là. Ça, vous le trouvez maintenant, ce film, sur les plateformes numériques. Deuxième film, c'est Still Alice. Still Alice traite le sujet du malade jeune, puisque c'est une jeune femme qui était professeure et qui se trouve à avoir des symptômes Alzheimer dès l'âge de 40 ans. Puis après, il y a deux autres films qui traitent du sujet de l'aidant. C'est Une vie démente, un film belge. Et puis, le dernier film qu'on a diffusé largement sur tout le département, c'est Mon vieux. Mon vieux, c'est le film documentaire qui a été réalisé par Elise Moon pour son papa, qui était atteint Alzheimer. Et là, vous voyez Elise Moon dans un rôle complètement différent de son rôle habituel d'humoriste et acteur comique. Là, vous le voyez dans son rôle d'aidant. Donc, c'est complètement différent. Donc, ce film-là, on l'a passé largement. Et puis, bientôt, il va sortir un nouveau film. Il va sortir le 22 mai. C'est un film sur lequel France Alzheimer est partenaire. Il s'appelle Colloque de choc. Comme acteurs principaux, il y a Olivier Gourmet, très connu, et puis la dame qui joue le rôle d'un malade d'Alzheimer, c'est Hélène Vincent, qui est très connue également sur plusieurs films. Donc nous, en tant que partenaire, ça nous ouvrira la possibilité de faire venir justement ces acteurs lors de la diffusion sur le département de l'Oise. Donc on a déjà plusieurs dates arrêtées. On a une date sur Chantilly le 20 septembre. Bientôt, au mois de juin, il sera diffusé au Majestic à Compiègne. Et puis on verra, Jean-Pierre ira voir le cinéma de Crépy-en-Valois pour programmer une diffusion.
Des événements à venir ?
Alors des événements à venir, il y en a tous les mois, puisqu'on va, dès ce mois de mai, on participe à plusieurs forums, mais sur la partie ouest de Beauvais. Mais on commence à préparer notre journée mondiale. C'est important, ça, tous les ans, le 21 septembre. 21 septembre, c'est la journée mondiale Alzheimer. Donc nous serons présents, bien sûr, sur toutes les villes où nous avons une activité. Donc Jean-Pierre est chaque année présent sur Crépy-en-Valois. Et je pense qu'on va faire du sport adapté également. Et ça, c'est dans le cadre des JO de 2024. Où là, on va faire du sport adapté pour les malades. Donc, Jean-Pierre parlait tout à l'heure de tennis de table, puisque oui, nous avons signé une charte de partenariat, une convention de partenariat avec la Fédération française de tennis de table au niveau national, et également avec la Fédération française de tennis et la Fédération française d'équitation. Donc, avec ces conventions nationales, ça va nous permettre de faire des activités après avec les clubs locaux du département.
Très bien, donc il y a pas mal de choses à suivre, une actualité riche à suivre sur le site de France Alzheimer et France Alzheimer Oise, hein, c'est ça,
oui.
Hein, on aura les renseignements sur les deux.
Oui,
oui,
bien sûr.
Et au niveau une dernière question avant qu'on se quitte, au niveau du corps médical, on a bien compris que c'était compliqué en ce moment, qu'il manquait beaucoup de spécialistes, de généralistes, tout ça. Est-ce qu'ils sont bien préparés à répondre aux questions des gens ? Est-ce qu'on a assez de spécialistes dans l'Oise ?
L'Oise, oui.
Oui, on est bien
équipés.
Oui.
Sur Compiègne et Beauvais, on a vraiment des gériatres au top sur cette maladie-là, hein. Il n'y a pas de souci. Si on veut redire quelques mots au niveau de la recherche, puisque nous sommes également, on fait souvent des conférences d'ailleurs avec un professeur de médecine qui travaille au niveau de la recherche mondiale et qui nous disait dernièrement, c'est que oui, la recherche avance. N'écoutez pas trop les médias quand même sur les nouvelles molécules qui sortent. Il en est sorti une aux États-Unis dernièrement et qui est déjà en place aux États-Unis, qui ne viendra jamais en Europe. Elle ne viendra jamais en Europe parce que, premièrement, les effets secondaires sont énormes, c'est plus de 35%. Donc ça ne viendra pas en Europe. Et puis le coût. C'est 50 000 dollars par an, donc ça ne viendra jamais en temps. Mais ce professeur me disait dernièrement que dans 5 à 10 ans, et vu déjà la longévité de cette maladie, 5 à 10 ans, c'est rien, on aura la molécule qui permettra de stopper la maladie. Elle restera la maladie, vous ne pouvez pas l'annuler de votre corps, mais elle stoppera la maladie. Si, bien sûr, la maladie est détectée à un stade précoce. Voilà, donc ça, c'est une bonne avancée quand même qu'on va suivre de près.
Mais ça, c'est une touche d'espoir qui est importante pour, disons, terminer cette émission. On va essayer d'avoir un côté positif quand même. C'est pas évident, hein, bien sûr, mais je pense que c'est important de donner ce genre de message, oui. Et ben justement, je vais vous laisser la parole pour laisser un message à vos auditeurs. Peut-être chacun un petit mot pour les auditeurs qui vous écoutent.
Alors, je leur dirais qu'ils n'hésitent pas, si besoin, nous contacter pour un appui ou pour, comme le disait Jean-Pierre, avoir les bonnes adresses. Et on est là pour les aider, tout simplement.
Alors moi, je dirais tout simplement, ne restez pas seul. Ne soyez pas isolé, parce que c'est pas bon pour le malade. Vous avez mes coordonnées, surtout si vous avez besoin d'un renseignement. N'hésitez pas, je répondrai. Comme je dis, si je ne suis pas là, vous laissez le message, je vous rappelle, il n'y a aucun problème. Mais surtout, venez nous rencontrer, venez au Café Mémoire, venez. Tout ce qui est mis en place par France Alzheimer Oise, c'est hyper important. Et puis, vous savez qu'une association, plus on est nombreux, plus on représente un certain poids au niveau politique. Donc adhérer à l'association française alzheimeroise. 34 euros, c'est rien, parce qu'avec toutes les activités qu'on vous propose, vous avez en plus, ce que Didier n'a pas à oublier, c'est que lorsque vous êtes adhérent, vous avez le droit à 5 entretiens avec une psychologue individuelle. Donc venez chez France Alzheimer Oise, et là vous retrouverez des aides, des gens qui ont vécu des choses, des échanges d'expériences, des réseaux qui se constituent, et c'est hyper, hyper important.
Voilà, eh bien, je pense que toutes les bonnes choses ont été dites. Moi, je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre studio, et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Ben merci à vous. Donc, nous étions en studio à la radio, donc dans les studios éphémères, on va dire, puisque bientôt, on aura un beau local tout neuf où on pourra vous réinviter pour suivre votre actualité, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire dans un peu de temps. Hein. Et donc, oui. Merci à Vanessa, donc, qui est nouvelle administratrice au niveau de Alzheimer, France Alzheimer Oise.
Merci à vous.
De Jean-Pierre Gruyer, donc, qui est administrateur, donc référent sur le secteur de Crépy-en-Valois, et de Didier Gamin, donc le président, qui est vice-secrétaire général national en plus, donc en plus d'être président de la section, enfin de l'association France Alzheimer Oise. Merci, bonne écoute sur RVM 93.7 et je vous propose de se quitter en musique avec Charlotte.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Ne dis rien, être ou ne pas être la question qui revient. Où sont passés les moments que j'avais tant aimés? Où sont enfouis les bris de cette vie oubliée? J'attends docile, j'épie, j'enfie, je guette. Cela, si j'en tranquille qui rit, sourit, se prennent dans leurs bras. Derrière la fenêtre, un enfant me rappelle les visages aimés, ses absents que j'appelle. Où sont passés les moments que j'avais? Où sont parties les mains tendres, les étreintes envolées? J'attends docile, j'épie, j'envie, je guette. Tout cela, ces gens tranquilles qui rient, sourient, se prennent dans leurs bras. Je sens bien que l'instant présent dérape, tout m'échappe. Demain, hier, dans ma tête, tout mon corps me kidnappe. Mes membres se figent et demain disparaît. La mémoire se vit, tout s'enfuit. Je me tais. Où sont passés les moments que j'avais tant aimés? Sont enfouis les bris de cette vie oubliée. Je sais grandir, vieillir, mourir, bien sûr, c'est normal. Mais la maladie d'oublier sa vie, ça fait mal. Je sais grandir, vieillir, mourir, bien sûr, c'est normal. Mais la être, disparaître, dire enfin.
Grain de sel, une émission de la rédaction. grain de sel.